Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Transition au Mali, quel bilan 2022? De nombreux événements ont retenu l'attention en 2022 sur le plan politique, sécuritaire et de la gouvernance, des sanctions de la CEDEAO à la publication du calendrier électoral, du renvoi de l'ambassadeur de France à l'attaque contre le camp militaire de Kati, entre autres. Quel bilan peut-on dresser de la gestion du pays en 2022? Comment évolue le processus de transition en cours? Le calendrier des élections et des réformes politiques est-il tenable? Quels sont les défis et perspectives pour 2023, le Grand Dialogue de Studio Tamani pose donc le débat avec nos invités. Oumar Diarra, membre de la CPM, Convention pour le Mali, soutien à la transition. Ibrahima Tamega, porte-parole du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et Dr Mariam Sidibé, spécialiste des questions sécuritaires. Je suis Imran Akilo Maïga à la présentation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Diarra, le bilan des autorités de la transition courant 2022 est-il satisfaisant?
Bon, bonsoir tout le monde, tous les auditeurs de Studio Tamani à travers les Bali. Et surtout, hommage à tous les soldats qui se battent pour le redressement de la situation sécuritaire. Et surtout, prière pour le repos des âmes des personnes qui sont décédées depuis 2012. Et vous me demandez de parler du bilan de la transition. Je pense que c'est trop tôt de tirer un bilan parce que la transition n'est pas encore terminée. Donc, je crois qu'elle est même en voie de réussite, mais pas encore en voie de conclusion.
Peut-on parler de voie de réussite sans tirer un bilan?
Oui, parce qu'un bilan, ça veut dire quoi?
Il y a eu des actions qui ont été menées courant 2022.
Il y a eu des actions.
Mais est-ce que ces actions-là sont satisfaisantes?
Bon, c'est une œuvre humaine.
Et quelles sont ces actions-là donc?
Sur les plans, par exemple, sécuritaire en 2022, il y a eu beaucoup d'acquis. Il y a eu des matériels militaires, ce qu'on manquait cruellement depuis des années. Et encore, il y a eu aussi, sur les plans sécuritaires, il y a eu des réponses à des situations, ce qui nous manquait aussi pendant des années. Depuis 2012, on avait appris à reculer, ce qu'on disait, que les soldats reculaient. Mais maintenant, on a vu que c'est l'offensive, pour ne pas dire même la contre-offensive que l'armée engage maintenant contre les bandits armés de toutes sortes, contre les terroristes. Et c'est des victoires qui sont faites sur les plans militaires. Des zones entières ont été reconquises. Des bases militaires sont sécurisées maintenant, contrairement aux années précédentes où on attaquait les camps par manque d'eau, les soldats qui partaient chercher de l'eau étaient attaqués en cours de route. Il y a eu beaucoup de choses sur le plan sécuritaire. Sur les autres plans, la situation est que politiquement, le Mali est de retour dans le monde. On est de retour dans le concert des nations. Nous sommes un pays de plus en plus respecté. Personne ne peut nier que le combat pour la souveraineté a été engagé et est durablement effectué par cette transition. Aujourd'hui, nulle part dans le monde, on ne parle comme auparavant, ce qu'on disait sur le Mali, on ne dit pas les mêmes choses. C'était un pays qui n'avait aucun moyen, qui n'avait pas d'armée, qui n'avait rien. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des autorités qui travaillent à la restauration de la souveraineté du Mali sur tous les plans. Sur le plan minier, on a une société minière qui a été créée. Sur le plan sécuritaire et scolaire, on a créé l'école de guerre. C'est vrai, c'est sécuritaire aussi. Et sur le plan scolaire, autrement aussi, on a beaucoup de choses qui ont bougé sur l'article, les fameux articles 39 qui avait empoisonné les relations entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement d'Ibeka pendant des années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de travailler dans les écoles. À part ça aussi, il y a eu des examens plus sereins, plus sains, plus que ce qu'on n'a jamais vu pendant plus de 10 ans, des bacs où il n'y a pas eu beaucoup de fuites de sujets, du DF aussi. Donc je pense qu'il y a un progrès sur ce plan aussi, sur le plan scolaire. Maintenant, sur le plan économique, la situation est un peu plus difficile. on n'échappe pas à la conjoncture internationale. Et ce qui se passe avec l'embargo déjà, des voisins, des mauvais voisins qui nous ont imposé des sanctions illégales et illégitimes et inhumaines, qui ont fait que l'économie a un peu souffert. Mais heureusement, on n'a pas eu ce qu'on voulait, ce qu'ils voulaient nous faire avoir. Parce que leur souhait, c'était la paralysie totale. Mais on a eu un gouvernement qui a pu répondre. Parce que ce qu'on disait, c'était que les Maliens pouvaient résister seulement pendant 15 jours. On a entendu certains Maliens même qui disaient qu'on ne pouvait pas tenir et que la situation devrait devenir intenable. Mais les sanctions-là ne nous ont pas empêchés d'avoir à nous nourrir, d'avoir à manger, d'avoir des médicaments, d'avoir des carburants, même si c'était cher. Et même aujourd'hui, c'est cher aussi. Et c'est ajouté aussi la conjoncture et la situation internationale, par exemple la guerre en Ukraine, ce qui a fait que nulle part dans le monde, les prix ne sont comme auparavant. Nulle part. C'est seulement en Russie que les prix sont plus stables. Donc ce qui veut dire que vraiment, sur tous les plans, la transition est en train de se battre. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas fini, mais la bataille continue.
En dehors de ces quelques résultats que vous avez annoncés, notamment le retour du Mali sur le concert des nations et puis le respect du Mali sur le plan international, est-ce que toutes les préoccupations des Maliens ont été prises en compte au courant 2022?
Bon, si on me disait de poser la question, j'allais dire est-ce que toutes les préoccupations du Mali sont en train d'être prises en compte? Parce qu'en réalité, ce n'est pas fini, comme j'ai dit au départ. Donc, est-ce qu'on fait assez pour gérer les problèmes? Je pense que oui, on est en train de faire assez. Mais c'est une œuvre humaine qui va toujours souffrir des anomalies.
Raisons pour lesquelles le coup d'État a eu lieu, est-ce que ces acquis ont été... On peut parler des acquis?
La première raison pour laquelle il y a eu les renversements, c'est-à-dire la révolution de 2020, c'était sécuritaire. Personne ne peut nier que tous les gouvernements qui ont passé, que ce soit de Amadou Toumani Touré jusqu'à Ibeka, les problèmes c'était sécuritaire. Ce n'était pas autre chose. On n'a pas, les gens, la tête n'est pas partie parce qu'il n'y a pas eu de route, c'est pas ça. Donc sur le plan sécuritaire, c'était l'essentiel. Et sur ce plan, vraiment, on peut dire tout, sauf dire qu'on ne fait pas assez. On fait beaucoup sur ce plan et c'est ça l'essentiel. Les restes là, ça c'est des problèmes de routine qu'on est en train de gérer. Pour moi, je pense que la transition fait beaucoup.
D'accord. Satisfait-il sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'éducation, selon ces dits, est-ce que, selon vous, vous avez l'impression que les lignes ont bougé durant 2022?
J'ai beaucoup de peine pour mon ami concitoyen, M. Diarra. Tant je lis sur son visage qu'il n'est pas facile de défendre le bilan de cette transition, si ce n'est encore de la spéculation, si ce n'est encore de donner des informations sans des indicateurs statistiquement vérifiables, j'ai comme l'impression que nous ne vivons pas dans le même pays, que nous ne vivons pas la même situation.
D'ailleurs, je
profite de l'occasion, à l'entame de mon intervention, pour présenter nos excuses à nos compatriotes de l'intérieur, ceux qui vivent aujourd'hui les calvaires, ceux qui vivent aujourd'hui l'insécurité, ceux qui ont été contraints d'abandonner leur village faute de sécurité pour aller se réfugier dans des villages ou des villes voisins. En disant que la sécurité est au rendez-vous, c'est une forme d'offense envers ces concitoyens qui aujourd'hui peinent à dormir. Le Mali rentrer dans le concert des nations, au contraire, c'est l'isolement diplomatique, c'est l'isolement de notre pays sur la scène internationale qui est sur le rendez-vous. Permettez-moi donc de vous répondre à votre question. Pour ce qui nous concerne, cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. À l'entame de cette transition, nous étions positionnés comme des Maliennes et des Maliens, prêts à accompagner cette transition pour sa réussite, vers sa réussite, parce que nous avions estimé que si la transition réussit, elle aura réussi pour le Mali. Si elle échouait, elle aura échoué pour tous les Maliens et toutes les Maliennes. Malheureusement, la souris a accouché d'une montagne. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Le Mali, la situation dans notre pays se dégrade à tous les niveaux. À tous les niveaux, des graves menaces pèsent sur l'unité nationale, sur la souveraineté. La menace terroriste est presque aujourd'hui pèse sur l'entièreté du territoire national. Encore récemment, c'est la ville garnison de Kati qui a failli faire l'objet, le camp militaire qui a failli l'objet d'attaques terroristes à l'entrée de Bamako, à la porte de Bamako. Le panier de la ménagère n'a jamais été autant vide que sous cette transition, monsieur. Les libertés fondamentales, parlons-en, individuelles et collectives, sont régulièrement, constamment menacées. Même la liberté de la presse, vous
quand,
qui êtes...
Quand vous dites qu'il y a une menace sur l'unité, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Les Maliens n'ont jamais été autant divisés que sous cette transition. C'est sous cette transition qu'on voit, qu'on est catégorisé entre bons et mauvais Maliens, entre patriotes, certains diront le contraire, apatride, alors que le mot n'est pas approprié, puisque apatride n'est pas le contraire, le sens contraire de patriote, bien entendu. Apatride, c'est quelqu'un qui n'a pas de pays ou qui a été déchu de sa nationalité. Quand j'ai dit que l'unité nationale est menacée, c'est sous cet angle. Lorsque des citoyens de ces pays essayent de donner une autre voix discordante, leur idée, leur expertise aussi, pour accompagner cette transition, à partir du moment où ils ne pensent pas pareil que les autorités de la transition ou leur soutien, ils sont tout de suite catégorisés comme les ennemis de la patrie, comme les pions des autres pays. Oui, monsieur, je continue pour dire que également le pays s'enfonce dans une forme de gouvernance caractérisée par la propagande. Par la propagande, mais aussi par la diversion. Puisque ce que je disais, monsieur Diarra, tout à l'heure, je considère cela, je qualifie cela comme une forme de diversion, qu'on essaye de nous endormir debout. Nous sommes aujourd'hui, cette gouvernance est aussi caractérisée par le bâillonnement de la liberté de la presse. Vous conviendrez avec moi que récemment encore, un de vos collaborateurs journalistes a été traité de tous les noms. La chaîne dans laquelle il travaille a été même fermée. C'est du jamais vu. On n'aurait pas pu imaginer ça. Monsieur, la crise diplomatique que nous connaissons aujourd'hui, lorsqu'il parlait de la présence du Mali dans le cortège des nations, le Mali n'a jamais été autant isolé sur le plan diplomatique. Nous avons dressé tout le monde contre nous. Nous considérons désormais tout le monde comme nos ennemis. Même avec nos voisins immédiats, c'est l'instabilité diplomatique. Avec nos voisins immédiats, avec qui nous partageons tant d'histoires, tant de liens économiques, tant de liens culturels sont aujourd'hui vus comme nos ennemis. Monsieur, c'est une situation sans précédent. Et nous, si nous ne prenons pas garde, bien entendu, le pays s'enfonce de jour en jour. Ayons donc le courage, même ceux qui prétendent soutenir cette transition, ayons le courage, lorsque ça ne va pas, de dire que ça ne va pas. Ayons le courage de dire que là, ça va. Parce que ça va. Aujourd'hui, nous nous acheminons, il ne nous reste qu'un an et quelques mois. Et c'est pendant un an et quelques mois que la transition est censée organiser 4 élections. Les présidentielles, la présidentielle, les législatives, d'abord le référendum et les municipales. Non, c'est ce que je veux dire par là. On continue de faire croire aux Maliens que le délai est tenable. 4 élections en un an.
On saura au cours de ce débat. Le soutien à la transition évoque un bilan satisfaisant pour les opposants. Les résultats sont en deçà des attentes. Quelle analyse faites-vous du parcours des autorités de la transition courante 2022, Mariam ?
Merci, cher Maïga. Je pense qu'il est utile pour moi, d'abord au seuil du nouvel an, de formuler mes vœux de paix, de stabilité, de cohésion sociale et surtout de lendemain meilleur pour le Malien. Et aussi, permettez-moi, M. Maïga, de déconstruire votre thématique. Vous nous parlez du bilan de la transition. Quel bilan pour 2022 ? Ça veut dire que vous attendez un bilan comptable dans la gestion de l'État. C'est pas que nous sommes au mois de janvier, que l'année 2022 s'est écoulée, que nous devons tenir comme une comptabilité public ou d'une société privée un bilan pour savoir si le solde est déficitaire ou créditaire. Je pense que la gestion de l'État est bien plus sérieuse que cela. On ne peut pas cantonner l'analyse de la réussite ou de la non-réussite d'une transition sur une fourchette de 12 mois. d'une part. Et d'autre part, aussi, il faut être objectif dans ces analyses.
Au cours de ces 12 mois, il y a eu des actions qui ont été menées.
Est-ce que ces actions sont-elles suffisantes pour parler de bilan négatif ou positif? Je pense que non. On ne peut pas déjà évaluer un processus qui est en cours, qui n'est pas encore fini. Je pense que pour parler de bilan positif ou négatif, il faut d'abord partir de deux postulats majeurs. Le premier postulat, pour moi, c'est que nous avons une transition qui est venue, qui n'a jamais eu, à mon avis, sauf erreur de ma part, la prétention de prendre en compte tout le besoin et satisfaire toutes les difficultés auxquelles à la fois l'État et les citoyens sont confrontés. Puisque ces difficultés sont bien antérieures à cette transition, ces difficultés datent des périodes d'indépendance ou même d'avant-indépendance. Nous avons un cumul de facteurs, à la fois endogènes qui sont propres au Mali, dont la non-résolution a toujours donné des ruptures au système démocratique. Le Mali aussi évolue dans un environnement géopolitique complexe. Nous avons les ramifications des crises que vivent nos pays voisins du Mali qui impactent la dynamique sécuritaire au Mali. Donc la sécurité au Mali se trouve impactée à la fois par les voisins mais aussi par les difficultés internes que nous avons au sein de cet État. Une chose est sûre, on ne peut pas à partir de ces entrées dire que nous avons un bilan positif ou un bilan négatif. L'autre postulat, c'est que nous avons une transition qui a un mandat classique. Quelle que soit la transition, on sait qu'une transition classiquement a trois objectifs majeurs. Stabiliser, sécuriser, organiser les élections. Et jusqu'à preuve de contraire, on n'est pas arrivé au bout de cette période impartie à cette transition. Et moi, si j'arrive à la fin de cette période, que je n'ai pas les élections telles que convenues, là, je peux permettre de prononcer si cette transition a-t-elle atteint ou pas ses objectifs. Ça, c'est les deux postulats auxquels on peut partir. Mais de constat général, il est indéniable que l'insécurité est toujours une réalité au Mali. Le front du nord est au centre et les régions sud et est sont en train d'être impactées, sont en train d'être touchées par des actes d'insécurité. Les régions qui étaient jusque-là épargnées ne sont plus épargnées. Au-delà de cette insécurité, l'inflation n'a jamais été aussi réelle au Mali. Les difficultés, le besoin d'État de la population n'a jamais été aussi réel. La population demande l'accès aux services sociaux de base. Mais l'accès aux services sociaux de base est limité. Cela n'est pas aussi dû uniquement à cette période de transition. L'accès aux services sociaux de base a toujours été historiquement limité au Mali à certaines régions. Sauf que la dynamique est beaucoup plus prononcé actuellement. Après les difficultés d'accès à la sécurité et les difficultés d'accès aux services sociaux de base de manière classique, on se rendra compte qu'il y a à la fois une pression interne et une pression externe sur la question de gestion de cette transition, tout en occultant le mandat classique de cette transition. Les chantiers de réforme auxquels nous imputons à cette transition, a-t-elle le temps, a-t-elle la légitimité nécessaire de porter ces chantiers, si ces chantiers de réforme vont au-delà des questions de sécurisation ou des questions d'élection? Donc, je dirais que d'abord, il n'est pas très judicieux de vouloir tenir un bilan comptable dans la gestion d'un État parce que nous sommes à la fin de l'année, au mois de décembre, pour tenir. Donc je ne suis pas tout à fait en phase avec la construction des thématiques de nos échanges de cet après-midi. Pour moi, ça va être reformulé d'abord.
Quand vous dites que sur le plan insécuritaire, que dans les régions, la sécurité se dégrade de jour en jour, du sud au nord, au centre, alors que les autorités de la transition se félicitent de l'avance de la montée en puissance de l'armée malienne qui permet aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui l'armée n'est plus attaquée dans les garnisons. Est-ce que cela n'est pas aussi un succès du côté de la sécurité?
Moi, en fait, je suis comme vous, je m'en tiens à ce qui est annoncé officiellement par la direction de la presse, la DIRPA ou toutes les autres presses civiles qui sont là, qui nous donnent des nouvelles des différents fronts. Et je suis obligée de m'en tenir à ces nouvelles. Au-delà de ces nouvelles, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de réfugiés. Le nombre de réfugiés de 2012 à aujourd'hui n'a pas diminué. Le nombre de déplacés n'a pas diminué. Je parle des déplacés internes. Même si on est en train de ventiler des chiffres de retour massif de certains réfugiés dans leur localité d'origine, mais tout en occultant les chiffres de nouveaux départs de ces mêmes zones pour partir vers d'autres pays ou encore d'autres régions du pays. Donc pour moi, tant qu'il y a ces vagues de déplacements massifs au sein de la population, tant que la population ne peut pas avoir la quiétude ou la tranquillité d'avoir quelques heures sans qu'il y ait des échanges de tirs, cette population qui se trouve prise entre deux feux, le feu de notre armée nationale et le feu des groupes armés non étatiques. Donc la population est entre deux feux où le seul recours reste de prendre le chemin de l'exil. Donc pour moi, l'un des indicateurs majeurs de réussite ou d'échec de la sécurisation du territoire peut être jaugé à travers le nombre de personnes déplacées et réfugiées maliens. Et jusqu'à preuve de contraire, nous avons un chiffre des plus importants. Mais loin de moi, l'idée que je dirais que non, notre armée a échoué. Non, il faut être conscient aussi des difficultés que notre armée a. La difficulté est quoi? Nous avons l'un des quotas les plus faibles au monde. Nous avons un pays qui fait 1 241 000 km². 1 241 000 km² avec une population plus ou moins de 20 millions, selon les chiffres officiels. Et si on divise le nombre de militaires actifs aujourd'hui par rapport à la population, par rapport à la superficie, nous avons l'un des quotas les plus faibles. Sachant que à la fois cette infériorité numérique est appuyée par aussi une faiblesse logistique, même si cette faiblesse logistique, l'armée tend à aller à combler cette faiblesse logistique à travers l'acquisition de nouveaux matériels de guerre, à travers des formations, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire aujourd'hui. Même si les difficultés de cette armée, on ne peut pas objectivement dire que oui, parce que l'armée est mise à mal, parce qu'on vit cette période de transition. Non, nous n'avons pas eu une armée qui ait un parcours des plus parfaits. Non. Donc on ne peut pas imputer ces difficultés non plus de l'armée à la transition, en toute objectivité. Donc je veux en fait dire que nous avons un État qui se construit dans une crise permanente. Nous avons un État depuis 1960, aujourd'hui nous sommes en janvier 2023, où on passe de crises sociales à des crises politiques, à des crises sécuritaires. Les crises sont multiples et complexes. Et ces crises font partie de la construction étatique du Mali. Et la transition n'a pas un coup de baguette magique pour prétendre régler tout ceci en 18 mois. Qu'elle s'attaque à ce qui est essentiel, stabiliser, sécuriser, organiser les élections dans le temps qui est imparti. Pour moi, à partir de ce moment-là, je dirais que cette transition a échoué ou elle a réussi. Et pour l'instant, je n'ai pas de preuves pour parler de réussite ou d'échec de cette transition. Et je m'abstiendrai de tenir un bilan comptable annuel de la gestion d'un État. Donc, je vous dirais, M. Maïga, de revoir la formulation de votre titre aujourd'hui.
D'accord. Omar Diarra, en écoutant les deux intervenants, on a l'impression que les lignes n'ont pas bougé. Y a-t-il des signaux permettant de rassurer le Malien que l'avenir sera rose?
Bon, pas seulement l'avenir, même aujourd'hui. Parce que M. Tamega a dit que j'ai fait mes analyses sans donner des statistiques. Mais lui aussi non plus n'a pas donné de statistiques pour l'instant. Donc ce qui veut dire que il va dans le même sens que moi. Donc pour dire que le simple fait qu'eux-mêmes ils aient changé les noms de transition réussie pour un retour à leur conscience, ça veut dire qu'ils sont conscients que la transition a déjà réussi. La transition a réussi, ils ont tiré leur conclusion. Ils veulent maintenant qu'on rentre à leur conscience. Mais ce qu'il y a est que les attaques dont on parle. Hier j'écoutais une émission sur la VOA. Et les reporters, parce que les journalistes aussi, c'est très bien qu'ils se déplacent à l'intérieur, comme ça, il est au fin fond des choses. Et qu'est-ce qu'on disait dans les reportages? La population de Ténégon, ils disent que ça n'a jamais été aussi bien pendant des années, que les marchés se font maintenant, qu'ils peuvent faire les mariages maintenant. Il y a eu un habitant de Gao aussi qui a témoigné dans la même émission et qui a dit que sur la route, les attaques se font de moins en moins fréquentes. Un habitant de Gao sur la voie de l'Amérique, qui n'est pas une radio malienne. Donc, à partir de ces choses-là, moi, je ne suis pas partout. Mais j'ai des informations d'un peu partout pour dire qu'il y a une amélioration. Parce qu'une armée qui n'a pas été construite, parce qu'on préfère dire que ouais, l'armée a acquis des équipements.
Sur le plan sécuritaire, les témoins de Gao ont indiqué sur les antennes de Tamani tout près, hier, du jour au lendemain, chaque jour, il y a des attaques sur les routes et dans la ville de Gao. Quand vous dites que sur la route Gao, il n'y a pas de...
Je peux vous filer l'élément que j'ai écouté sur la VOA hier soir. Donc, ce n'est pas un mensonge.
Je m'assois pas du contraire. Pouvons-nous nous fier à une simple émission radio-téléphonique pour en faire un constat général?
On me cite un autre média,
je suis chercheur. Je Madame, pense que les collectes des
Madame,
données, les résultats
sur le
terrain témoignent plus que, en fait, ce qu'un journaliste peut dire sur un plateau.
On ne peut pas aussi rejeter le travail scientifique d'un journaliste. Il faut quand même respecter les autres médias aussi.
On parle également de Studio Tamani, dans lequel les auditeurs de Gao ont réagi par rapport aux questions sécuritaires, dans lequel ils dénoncent l'insécurité grandissante dans la ville et sur le long des routes.
Je n'ai pas l'impression que vous voulez dire que ce que j'ai entendu sur la VOA aussi est faux. Donc je pense qu'on peut partir de là. Ce que moi je veux dire est que les attaques, ce n'est pas du jour au lendemain que ça s'arrête dans un pays. Paris a subi des attaques en décembre. Il y a eu des morts. Les Sinaï, en Égypte, il y a eu des attaques. Il y a quelques jours seulement. Il y a eu des morts. Mais ils sont en train de se battre contre le tourisme il y a plus de 20 ans. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut terminer cette histoire-là. Mais dire qu'il n'y a pas de progrès, moi je voudrais vraiment voir le contraire. Imaginez ce que Tamega dit aussi sur les plans des journalistes. Il dit que c'est une situation sans précédent. Mais il n'était pas là. On peut bien comprendre ça. On peut comprendre que Burama Touré n'a pas disparu sous cette transition. On peut comprendre que des journalistes de la rue Kaira de Nyoro ont été arrêtés sous cette transition. Donc, si tu dis que les journalistes n'ont jamais subi cette pression, dites-moi le nombre de journalistes qui ont été fait disparaître à Bamako pendant la transition. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Ce qu'on veut, si on veut tirer un bilan, il faut que ce soit objectif. Mais il ne faut pas venir accuser seulement. Parce que si tu fais une analyse monocamérale, finalement, tu vas dire ce qui te plaît, mais tu n'auras pas dit ce qui se passe. Sur tous les plans, la transition est en train de faire du progrès. Mais j'ai toujours dit et je répète que ce n'est pas encore satisfaisant. Parce qu'il faut voir les ressources. Quand on dit, on parle du panier de la ménagère, en France, on est en train d'augmenter les prix du carburant jusqu'à plus de 15%. Et ça, c'est annoncé. Et ce qui s'est passé, on ne compte pas. Il y a des coupures d'électricité, ce qu'on n'avait jamais imaginé. Vous voulez ôter les Mali du reste du monde? Donc, vraiment, je pense que...
Et concrètement, qu'est-ce que le Mali également a eu à faire pour contrecarrer cette augmentation de prix de carburant, comme vous le dites, en courant 2022?
La résistance. Le fait même que le Mali ait résisté. Il y a eu des pays où il n'y a pas eu d'embargo, où les carburants ont manqué, même dans la zone CEDEAO. Hein? Au Nigeria, il y a eu des jours, des mois où il n'y avait même pas de carburant dans les stations. Mais ça ne s'est pas passé à Bamako. Ce qui veut dire que nous avons eu des gens qui ont beaucoup travaillé. Une transition, des autorités qui ont travaillé pour qu'on puisse être là où on est aujourd'hui. Si aujourd'hui on parle de cherté, ce n'était pas commencé pour ça. Imagine des pays voisins qui s'unissent pour dire « bon, on va vous bloquer en tout ». Parce que c'était un mensonge de dire que les médicaments n'étaient pas concernés par l'embargo, que la nourriture n'était pas concernée par l'embargo, que cela pouvait passer. C'était un gros mensonge. Tu bloques les finances d'un État. Tu veux qu'il achète les carburants avec quel argent? Tu veux qu'il achète les nourritures avec quel argent? On a eu des partenaires, heureusement. Donc, ce qui veut dire que nous sommes bien dans le monde, comme l'autre dit qu'on a été isolé, mais je veux qu'ils me disent, on est isolé comment? On ne travaille pas avec quel pays dans le monde aujourd'hui?
Concrètement, quelles sont les actions menées par les autorités de la transition dans lesquelles les Maliens peuvent dire que l'avenir est meilleur?
Sur tous les plans, comme moi j'ai à le dire, sur les plans scolaires, il y a des avancées qui sont en train d'être faites, ce n'est pas terminé. Par exemple, on va à l'école. Contrairement à Suibiga, en janvier 2020, je me rappelle très bien qu'on était déjà en crise. Mais à ce pareil moment, on est en train d'aller à l'école aujourd'hui.
Oui, ouais, je mais pense que
elle ne dira pas le contraire.
Avec son accord, je pense que la résistance n'est pas le terme approprié. Mais il faut parler de résilience du peuple. Le Mali a un peuple résilient. Le peuple du Mali est habitué à souffrir. Nous avons souffert pendant presque 60 ans d'indépendance. Je n'impute pas la souffrance du peuple malien aujourd'hui à cette transition. Bien au-delà de ça, j'ai bien dans mes propos que la transition a connu beaucoup de
progrès. Comme moi, je n'ai pas terminé.
Je vous laisse parler. Je vous ai juste dit que la transition est venue trouver des problèmes que les Maliens avaient. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on attendait la transition, la fin du problème des Maliens. Non, ce n'est mathématiquement pas possible. La transition ne peut pas d'un coup de baguette magique régler tous nos problèmes. Mais elle fait ce qu'elle peut faire selon son mandat. Et en même temps, on part à l'école. Sauf que ça ne s'arrête pas à Bamako. Les chiffres des nombres d'écoles fermées dans les régions nord et centre sont encore d'une réalité frappante. On ne peut pas faire occultion de ces chiffres. Et il a raison de le dire, en tant qu'enseignante, ces chiffres me parlent.
Laissez-le aller au bout de ses idées.
Je suis enseignant aussi, mais Maram a bien fait de dire qu'il y a des écoles fermées. Mais c'était toutes les écoles qui étaient fermées sur Ibeka.
Absolument.
Maintenant, s'il y a des écoles. Mais à Bamako, on ne travaillait pas à cause des grèves. Mais maintenant, il y a un côté maintenant qui marche. Donc, on va mettre les deux côtés en marche. C'est ça qui fait l'espoir, c'est ça qui nourrit l'homme. J'ai parlé de résistance, pourquoi ? Parce que dans le contexte d'une agression, en réalité, on a été agressé. L'embargo qui a eu lieu, c'était en violation de toutes les règles internationales, y compris des résolutions des Nations Unies qui disent qu'un pays sans littoral ne devrait pas subir d'embargo. Mais il y a eu des Maliens qui ont soutenu ça. Donc, pour dire que, en réalité, il y a eu une résistance de la part des gouvernants qui ont même eu les mots, mais même les discours, ça rassure. Hein, le jour où il y a eu l'embargo, qu'est-ce que c'était dit dans les médias internationaux ? C'était la panique qu'on nous vendait. Mais le même soir, le gouvernement est sorti pour trouver les mots justes qui ont rassuré les gens, ce qui a abouti à la mobilisation historique du 14 janvier. Il faut reconnaître ça aussi, parce que le gouvernement aussi, c'est quoi ? C'est quand tu parles, les gens comprennent, les gens obéissent. C'est parce qu'il y a une confiance. Mais sous l'ancien régime, il n'y avait pas cette confiance-là. La construction même de la confiance du peuple malien en leur gouvernement est une œuvre de cette transition. Parce que c'était ébranlé, vraiment. C'était ébranlé. Il n'y avait pas... Autant, si le gouvernement Ibeka avait appelé à sortir, comme ça s'est passé le 14 janvier, vous croyez que les gens allaient sortir? Ils ont tout fait pour faire sortir les gens contre les M5. C'est les gens, les M5, qui étaient obéis en lieu et place du gouvernement. Ce qui a abouti à la chute de ces régimes. Mmh. Si les éléments de ces régimes viennent nous dire que ça ne marche pas, il va falloir qu'ils nous disent ce qu'ils ont fait de bien qu'on n'a pas fait maintenant. Comme ça, on saura qui est bien et qui n'est pas bien.
Ibrahim Tamiga, faut-il s'inquiéter ou garder espoir au rythme du processus de transition en cours ?
La situation du pays nous inquiète tous. Tous ceux qui portent ce pays dans le cœur et non dans la poche sont aujourd'hui inquiets, abasourdis et vivent une situation de tristesse. Et ce n'est pas parce que nous sommes contre ce pays, c'est parce qu'au contraire, nous aimons ce pays que nous nous inquiétons. Monsieur Maïga, permettez-moi, il a dit de parler d'indicateurs. Moi, lorsque je dis des choses, je le dis sur la base de preuves, sur la base d'indicateurs statistiquement vérifiables. Sous la transition, monsieur, l'insécurité s'est déplacée du nord et du centre pour regagner l'ensemble presque du territoire national. C'est pour ça, tout à l'heure, je faisais allusion à la récente attaque à la porte de Bamako, tout près à Kati. Monsieur, non, je ne vous ai pas coupé la parole. Je vous ai écouté religieusement. Je ne vous ai pas coupé la parole. La France n'est plus à Kidal, monsieur. La France est partie. À un moment, on nous disait que la France nous empêchait de rentrer à Kidal, que la France empêchait notre armée et nos autorités de s'installer à Kidal, de s'inviter à Kidal. Elle est partie depuis bien quelques mois. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller à Kidal ? C'est aussi un indicateur vérifiable. Monsieur, le panier de la ménagère, comme je disais tout à l'heure, n'a jamais été aussi vide. Je parle sous le contrôle d'une mère de famille qui est ici, sur le plateau. Combien il achetait les riz hier ? Combien il achetait les condiments hier ? C'est bien sous cette transition, elle peut les témoigner en tant qu'épouse d'un heureux mari du Mali. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est une situation difficile, délicate pour elle d'assurer les trois quotidiens. Je ne dis pas qu'elle n'assure pas, qu'elle n'arrive pas à assurer, mais elle peut témoigner ici en tant que femme que c'est de plus en plus compliqué et sous cette transition. Notre économie nationale est en mal. Demandez aux inspecteurs de finances. Là aussi, c'est des indicateurs statistiquement vérifiables. Demandez aux inspecteurs de finances. Demandez aux DFM combien de factures non payées sont déposées sur leur table. Demandez au Trésor de la République. Demandez à certains enseignants qui attendent encore leur salaire d'il y a quelques mois sous cette transition, monsieur. L'embargo a été levé. L'embargo que vous avez qualifié ici d'illégitime et d'illégal. Vous avez dit même que l'embargo était à la base de cette montée du prix des denrées alimentaires. L'embargo est derrière nous. Pourquoi après l'embargo, si les prix ne grimpent pas, ils ne baissent pas. Qu'est-ce qui explique cela? C'est l'incapacité des autorités de la transition à réguler les prix. Monsieur, pourtant, nous avions entendu parler des subventions ici pour nous permettre d'alléger certains prix. Les autorités se sont levées pour dire qu'ils vont tout faire pour réguler les prix. Monsieur, finalement, vous savez, quand je vous écoute, je pense tout de suite à... encore à certains co-débatteurs qui, lorsqu'on est sur le plateau, on a une expression en bambara, ziri. J'ai l'impression souvent que j'écoute ces petites histoires, ces contes de fées. Sortons de l'imaginaire, parlons de la réalité. Monsieur Maïga, permettez-moi de rappeler ici que la transition ne doit pas se résumer pour la défendre en propagande. La transition ne doit pas se résumer en voyant des gens sur les plateaux dire que nous avions acquis, l'armée monte en puissance, nous avions acquis des hélicoptères qui peuvent atteindre les États-Unis en 2 minutes, que bientôt nous allons faire venir la mer au Mali, que nous avons maintenant acquis des armes hyper et supersoniques. D'accord, la transition ne doit pas se résumer en propagande et en mensonge. Disons les choses clairement. Monsieur, je suis... à vos dispositions pour votre prochaine question.
Courant 2022, le Mali a misé sur la diversification des partenaires, notamment avec la Russie, l'Iran, la Turquie. Cela a-t-il changé quelque chose sur le plan sécuritaire?
Monsieur, si ce n'est les mercenaires de Wagner, quel autre partenaire nouveau vous avez vu ici? Au-delà de tout ce qu'on nous raconte, diversification...
Le Mali a récemment reçu des drones de la part de la Turquie.
N'oubliez pas de dire aussi qu'il n'y a pas longtemps, sous cette transition, le Mali a continué d'acquérir des armes qui avaient été précédemment achetées par le régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta. Ne disons pas tout, ne mettons
Quelle
pas
preuve?
Tout. Mais bien entendu, monsieur,
vous avez
des commandes ont été faites sous le régime Ibeka et des... les acquisitions ont été enregistrées sous cette transition. Monsieur, ce n'est pas des choses qu'on a entendues, c'est des choses qu'on a vues, monsieur. Ce sont des réalités indéniables que beaucoup peuvent témoigner. Même mon cher Diarra pourrait le témoigner, bien entendu. Donc, diversification des partenariats, c'est notre souhait. C'est notre souhait dans ce sens qu'un pays ne peut pas dire qu'il n'a qu'un seul et unique partenaire. Aucun pays du monde ne s'interdit de travailler avec certains collaborateurs, certains partenaires qui peuvent contribuer à son développement, à son rayonnement dans le cortège des nations. Il faudrait que cela se fasse, bien entendu, à travers la règle de l'art. Maintenant, ce qui est important, faut-il arracher sa main de la main d'ex-colonisateurs pour aller s'offrir à un autre colonisateur? Qu'est-ce que la Russie actuellement fait pour impacter positivement sur la sécurité dans notre pays? Est-ce que depuis l'arrivée des mercenaires de Wagner, nos concitoyens du Nord dorment tranquillement?
Est-ce que vous avez la preuve qu'il y a des mercenaires sur le territoire malien?
Monsieur,
avez-vous la preuve?
C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont nos autorités de la transition, tantôt qui disent qu'ils ont fait appel à... C'est pas moi qui l'ai inventé, monsieur.
Les autorités ont toujours parlé des instructeurs russes et non des mercenaires russes.
Monsieur, vous êtes journaliste. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes journaliste, vous-même en âme et en conscience. On parle oui ou non de la présence de Wagner dans notre pays. Vous le savez.
Si moi je autorités maliennes.
Si je le dis sur un plateau de télévision, c'est que, bien entendu, un plateau de télévision, ce n'est pas n'importe quelle tribune, monsieur. Oui, nous avons entendu parler de la présence de Wagner ici et non de l'armée russe. L'armée russe aujourd'hui est d'ailleurs aujourd'hui préoccupée par la situation en Ukraine. Je ne pense pas que c'est au Mali qu'elle vient.
Et vous croyez à ces dires plus que les dires des autorités maliennes,
monsieur,
de vos autorités?
De quelle autorité?
Vos autorités.
Des autorités de la transition?
C'est vos autorités.
Des autorités issues d'un coup d'État militaire contre un régime démocratiquement élu?
D'accord. Mariam, quel était le bilan des relations entre le Mali et ses partenaires à la même période 2022?
Permettez-moi d'abord de m'inscrire en faux sur certaines allégations de M. Tamega.
Okay.
En toute objectivité. Je ne peux pas travailler sur les questions sécuritaires et prétendre que l'insécurité a gagné les régions du centre sous la transition. Non.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'insécurité s'est déplacée du nord et le centre pour regagner pratiquement, menacer pratiquement l'entièreté du territoire national.
Justement,
rectification, madame.
Je m'inscris en faux sur cette allégation.
Mais moi, si pour concitoyens qui dorment mal dans le
pantinier. Je peux parler, s'il vous plaît. En toute objectivité, je dis que l'insécurité, l'expansion de l'insécurité ne peut pas être imputable aux 18 mois ou aux 12 mois précédents. Non. Il y a une dynamique d'évolution du champ du conflit au Mali. Des régions nord, les régions centre et maintenant les régions sud sont plus ou moins touchées. Pourquoi ? Parce que si on regarde d'un point de vue géographique, le Burkina est assez proche du centre du Mali. Le Burkina est assez proche du sud du Mali à travers Sikasso. Donc, en toute objectivité, il y a l'évolution du champ du conflit, il y a l'évolution des acteurs du conflit. Donc, que je rectifie M. Tamega en disant que non, justement, que ces régions soient concernées par l'insécurité ne date malheureusement pas des 12 ou des 22 mois précédents.
La région de Kaïs, date de sous la transition.
Je peux aller plus loin, s'il vous plaît, M. Tamega ?
Bien entendu, on est là pour ça.
Voilà. Donc ça, je le dis. Et puis, quelque part, la multiplicité de partenaires pour un État est tout ce qu'il y a de plus légitime. Les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. L'un des principes que nous, enseignants, nous disons très fréquemment à nos étudiants. Et le changement de partenaire, aujourd'hui, c'est médiatisé à tort. Qui connaît l'histoire de politique au Mali vous dira qu'au lendemain de l'indépendance, nous avons eu une renégociation des partenaires. Où ce n'est plus, j'arrive M. Maïga, où ce n'est plus en fait l'ancien colonisateur, le Mali a diversifié ses partenaires. Il n'y a rien de nouveau. En toute légitimité, le Mali peut, en tant qu'un État souverain, avoir les partenaires qu'il estime être nécessaires pour la gestion de sa sécurité ou pour la gestion de toute autre affaire étatique.
D'accord, on me signale qu'on n'a pas assez de temps encore.
Je peux juste clôturer cette intervention en disant que la multiplicité des acteurs est une stratégie qui existe au Mali depuis 1960. Et que cette fois-ci, rien n'empêche les autorités de la transition de renégocier de nouveaux acteurs tant que ces autorités jugent utiles ces nouveaux acteurs pour sa sécurisation, pour l'atteinte de son objectif. Donc, quelque part, il faut comprendre aussi que chaque nouveau acteur qui intervient dans la chaîne est aussi un acteur qui vient avec ses exigences et ses agendas. Et la multiplicité d'acteurs peut aussi, quelque part, entraîner une multiplicité d'exigences et d'agendas, souvent contradictoires avec la réalité de l'État et la réalité même du Malien.
Où en sommes-nous avec le fichier électoral, la mise en place des organes, de l'organe unique chargé des élections futures.
Bon, juste avant de répondre à cette question, je voulais rappeler à M. Tamega que si Kati est attaqué, si Kati a été attaqué sous la transition, c'est que Bamako aussi a été attaqué pendant le régime d'Ibeka. Et deux fois, trois fois. Le Télé-Radisson, ce n'est pas sous la transition.
La caserne militaire de Kati n'a pas été attaquée.
Allez-y.
Oui, c'est un échange de localité. Et là-bas, ça ne s'est pas passé de la même manière. Donc, je vais lui dire que tout n'est pas
sur imputable. La question du fichier électoral, où en sommes-nous?
Oui, c'est ce que j'arrive. Mais si vous voulez, vous me permettiez, parce que moi je voulais répondre à ça, il dit que je ne devrais pas le couper, même si lui aussi il coupe les gens.
Non,
ça,
parce qu'on n'avait pas assez de temps, c'est la raison pour laquelle moi je vous dis d'aller directement à l'essentiel. Sur le fichier électoral, où en sommes-nous?
Le fichier électoral, moi je n'ai pas assez d'informations sur ça. Je sais quand même que l'aide a été mise en place et que le bureau de Bamako a même eu son chef. J'ai suivi ça, je crois, un élément sur leur thème. Sur ça.
Est-ce que vous estimez que les élections qui sont prévues pour 2023 auront lieu?
Bon, j'espère que ça ait lieu. Mais si ça n'a pas lieu, ce n'est pas la fin du monde. Hein. C'est parce qu'on me dit qu'un pouvoir a été démocratiquement élu, qu'il a été renversé. On sait comment ils ont été élus. Donc si on doit continuer pour commettre les mêmes erreurs, est-ce que ça ne vaut pas mieux de jamais faire d'élections que de faire des élections à Ibeka où des gens sont élus pendant trois mois et être renversés le lendemain? Je crois qu'on n'a pas intérêt à ça. Il y a des pays qui ne font jamais d'élection, mais qui se développent très bien. On a fait la Coupe du Monde au Qatar, il n'y a jamais eu d'élection là-bas. C'est que moi, je veux dire sûrement que la démocratie électoraliste n'est pas une fin en soi.
D'accord.
Donc si on doit faire des élections, il faut bien que les conditions qui doivent permettre les élections soient bien là d'abord pour les faire. Et cela ne dépend pas seulement de la transition. Parce que les cadres aussi est là à mettre du bâton dans les roues dans certaines situations.
D'accord. Que faut-il pour trouver un consensus sur la suite de la transition?
La réussite de la transition dépendra de la réconciliation du cœur des Maliens. Qu'on sorte de cette catégorisation entre bons et mauvais Maliens. La réussite de cette transition, c'est de sortir de l'utopie. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, à un an et quelques mois de la fin de la transition et on nous annonce l'organisation de 4 scrutins sur un an et quelques mois, alors que à ce stade, comme vous l'avez dit, le fichier électoral, l'opérationnalisation de l'EJE, toutes ces activités qui devraient avoir lieu en amont ne sont pas encore effectives.
D'accord.
J'ai dit un dernier mot à Assimi Goïta. La région des Cailles attend toujours le train.
D'accord.
On nous a annoncé le départ, la reprise du trafic ferroviaire.
Que faut-il s'attendre pour la suite de la transition?
Je ne vais pas prédire la météo. Mais je m'en tiens à la feuille de route qui a été transmise par cette transition aux Maliens. Je m'en tiens aux promesses faites par les autorités de la transition aux Maliens et je sais que pour moi, ces autorités tiendront leurs promesses parce que les Maliens, en organisant les élections et à tenir chaque point de cette feuille de route, parce que tout simplement, le Malien est un peuple résilient, mais qui sait ce qu'il veut.
On me signale que nous n'avons plus de temps. C'est la fin de ce grand dialogue. Merci en tout cas à nos invités. Oumar Adjara, membre de la CPM, Convention pour le Mali, soutien à la transition. Ibrahima Temaga, porte-parole du cadre d'échange de partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel et Dr Mariam Sidibé, spécialiste des questions sécuritaires. Merci d'avoir suivi ce débat.